Bonjour à toutes et à tous. Jour de notre nouvelle série consacrée à l'économie du crime. Toute cette semaine, l'Écho tente de suivre la piste de l'argent sale. Demain, nous traquerons les banksters, ces gangsters de la banque. Puis nous examinerons mercredi l'organisation du deal dans les cités. Mais d'abord, qu'est-ce que l'économie du crime? Comment les grandes mafias se sont-elles internationalisées? Et comment colonisent-elles l'économie légale? Voilà les questions qui vont nous mener de l'Italie au Mexique en passant par le Nigeria. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des multinationales du crime, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Clotilde Champérache, économiste, maîtresse de conférences à Paris 8 et enseignante au CNAM. Avec nous également Bertrand Monnet, professeur à l'EDEC et titulaire de la chaire Management des risques criminels. En fin d'émission, vous retrouverez le journal de l'Écho présenté par l'indispensable Xavier Martinet. Clotilde Champérache et Bertrand Monnet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, on va passer par un petit effort de définition. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'économie du crime, Clotilde Champérache?
Finalement, on parle de beaucoup de choses, même si ce qui vient en premier à l'esprit, c'est toute l'économie strictement illégale, c'est-à-dire tous les marchés où on va produire et écouler des marchandises interdites par la loi. Donc notamment trafic de stupéfiants, trafic d'armes, trafic environnemental aussi en plein essor. Et puis, l'économie criminelle, il faut ajouter toute la dimension agent criminel agissant dans l'économie aussi légale, c'est-à-dire l'infiltration criminelle dans l'économie légale à des visées financières. C'est on réinvestit l'argent sale parce qu'on en a en excès, qu'on ne va pas réinvestir forcément directement dans l'économie illégale ou parce qu'on consomme dans la sphère légale. Et puis, il y a aussi une dimension de l'infiltration de l'économie légale qui est aussi productive, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises à l'activité déclarée légale qui sont dans des mains de criminels, notamment de criminels mafieux.
Alors on va voir effectivement cet aspect très important de cette interpénétration entre économie légale et économie illégale. Mais d'abord, qu'est-ce qui caractérise la mafia par rapport à d'autres types d'organisations criminelles selon vous, Bertrand Monnet?
On peut faire une distinction criminologique qui fait qu'une mafia repose sur des définitions très précises, etc. Moi, je suis pas du tout partisan de cette classification entre mafia et autres organisations criminelles transnationales. Je pense que une mafia, c'est une entreprise criminelle. Alors, elle peut être structurée de façon différente. Si on les aborde par ce prisme d'organisation, une mafia, finalement, c'est une coopérative. C'est-à-dire c'est une entreprise dont tous les salariés sont plus ou moins, enfin à des degrés divers, des actionnaires. Voilà. Les autres grandes organisations criminelles transnationales sont des entreprises de type beaucoup plus classique, avec des actionnaires, des administrateurs, des top managers, des exécutants, etc. Si vraiment on voulait rester sur cette définition, mais je pense que globalement, une organisation criminelle transnationale, finalement, sa dangerosité ne tient pas à une distinction de nature. Ce qui la rend dangereuse, comme le disait Madame Champérache, c'est sa capacité à infiltrer l'économie légale. Je pense qu'il faut vraiment bien les aborder par ce prisme-là. Ce sont des animaux exotiques qui sont pas du tout économiques, mais qui ont colonisé notre biotope légal. Il faut bien les identifier sans faire de distinction trop spécieuse, à mon sens.
Coloniser l'économie légale, peut-être avec une spécificité qui serait l'emprise sur la société, l'ancrage sur un territoire, Clotilde Champérache.
Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on infiltre l'économie légale, ça peut être purement financier, on a de l'argent, on ne sait plus quoi en faire dans la sphère illégale, on l'investit et ça rapporte encore plus d'argent et ça participe purement de l'enrichissement. Il y a une autre dimension de l'infiltration dans l'économie légale, c'est la logistique. C'est-à-dire que pour continuer à mener des activités illégales, on a besoin aussi de couvrir ça ou d'utiliser des services de transport, des entrepôts, et qu'on va avoir la main aussi plutôt que de sous-traiter à des agents légaux dont soit il faut les informer, ils vont pas forcément coopérer, soit on les informe, mais en cas d'interception, ils vont tout cracher le morceau parce que eux ne sont pas affiliés à une organisation criminelle, donc ils sont plus susceptibles de coopérer avec les forces de l'ordre. Et puis, il y a une troisième dimension qui est largement ignorée par les économistes, et c'est dommage parce qu'elle est fondamentale, notamment pour les organisations criminelles les plus structurées, donc les mafias, c'est le contrôle du territoire. C'est-à-dire qu'être présent dans la sphère légale, ça n'est pas une anomalie pour certaines organisations criminelles, ça fait partie de leur ADN dès le départ. Les mafias italiennes sont présentes dès le début dans la sphère légale, sont visibles dans la sphère légale et obtiennent un consensus social dans les territoires qu'elles occupent grâce notamment à ces activités légales. Et puis ça a un contact direct avec les agents légaux qui vont être complices, parfois contre leur gré, mais parfois aussi coopèrent. Et puis un lien aussi vers la politique.
D'où vient le terme de mafia, Clotilde Champeragy? Il date de la fin du 19e siècle?
Oh, c'est même sans doute plus ancien, c'est-à-dire qu'au départ, mafia c'est plutôt mafieux, mafios, en dialecte palermitain, qui est d'ailleurs un adjectif qui est utilisé pour désigner quelque chose de beau, hein. Il y a des connotations très positives. Et puis peu à peu, ça va dériver vers la désignation d'un comportement qui, au départ, là aussi, n'est pas associé à une dimension criminelle, mais plutôt à quelqu'un qui a le sens de l'honneur. Donc il y a toute une mythologie qui s'est créée autour de la mafia et que les mafias savent parfaitement instrumentaliser. Hein, c'est le crime d'honneur, les hommes d'honneur, mais c'est de la construction ex poste, hein, autour de ce terme dont on ne connaît pas l'origine précise.
Et si c'est peut-être, si c'est la Sicile qui est le berceau de la mafia italienne, c'est peut-être aujourd'hui la 'Ndrangheta en Calabre qui est l'une des plus puissantes mafias du monde.
En utilisant des techniques comme l'infiltration d'agents, les écoutes téléphoniques, les enquêteurs américains et italiens ont découvert que la 'Ndrangheta avait l'intention de faire un trafic international de drogue mortelle, de construire un pont de criminalité et de corruption entre l'Amérique du Sud et l'Italie, et de renvoyer la drogue à New York.
La 'Ndrangheta est très crainte pour sa férocité, sa cruauté, et en même temps elle est très moderne. Elle se tient prête sur tous les marchés à inonder l'Europe de tonnes de cocaïne et avec cet argent d'acheter ensuite tout ce qui est à vendre.
On vient d'entendre dans l'ordre le juge américain Marshall Miller lors d'un vaste coup de filet à New York en 2014, suivi de Nicolas Gratieri, procureur de la République en Calabre, qui lui s'exprimait le mois dernier. Bertrand Monnet, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, est devenue une véritable multinationale du crime organisé?
Oui, c'est clairement une multinationale, alors comme d'autres organisations, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est elle qui c'est l'une des grandes organisations. Et je pense que le terme multinationale, alors sans être trop cosmétique, sans forcer le trait, malheureusement, il répond bien. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des entreprises criminelles et je pense que malheureusement, il faut les percevoir comme telles parce que le parallèle avec l'entreprise légale, finalement, est assez stable. Alors, il y a une différence fondamentale, hein. C'est que le produit et les produits que vendent ces entreprises, c'est du vice. Ça c'est très clair, mais pour vendre cela, enfin c'est la satisfaction des vices, du vice, mais pour vendre ce produit, ces mafias s'organisent comme nombre d'entreprises légales. Moi je pourrais en rencontrer certaines, le cartel de Sinaloa au Mexique notamment, ou des gens de la Camorra ou du PCC au Brésil, des top managers si vous voulez, qui expliquent cela, et en fait ça répond bien avec des entretiens qu'on pourrait conduire dans des grandes multinationales légales. Ils sont structurés, ils ont une approche très commerciale, ils ont des forces de vente, ils font du marketing sur de nouveaux produits. Il y a des drogues qui n'existaient pas, on parle du fentanyl qui tue 30 000 personnes par an aux États-Unis. Il y a 5 ans ça n'existait pas, voilà. Donc ils ont cette capacité à toujours vendre de nouveaux produits, ils sont structurés, ils recrutent, ils forment des gens, ils les fidélisent de façon abjecte, mais ils les fidélisent quand même. Et puis il y a toutes ces dimensions financières. Ce sont malheureusement des financiers de haut vol qui sont capables de consolider leurs revenus et qui ont cette technicité qui leur permet de blanchir. Donc il y a vraiment ce parallèle. La 'Ndrangheta, c'est clairement une multinationale du crime. Encore une fois, c'est pas la seule.
Et une multinationale qui a réussi à imposer son hégémonie sur le trafic mondial de cocaïne. On pourrait parler, si l'on veut rester dans des termes économiques, d'une chaîne de valeur de la cocaïne, Clotilde Champeragy.
Oui, évidemment, il y a un gain qui est énorme entre la coca de base et puis la coca raffinée qui peut être écoulée en Europe. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce qu'on entend des États-Unis. Ça donne l'impression qu'on découvre que la mafia calabraise, effectivement, a des ponts à l'international. Il y avait un premier procès dans les années 50 qui était le procès du groupe Siderno, qui montrait que les mafieux calabrais de la ville de Siderno étaient implantés au Canada, en Australie et en Amérique latine, et que là, ils faisaient du trafic de drogue, ils étaient dans l'industrie du jeu et ils commençaient à manipuler des élections locales. Donc l'internationalisation de la mafia calabraise, c'est loin d'être un sujet nouveau. Et effectivement, il y a cette gestion par la drogue, mais pas que par la drogue. C'est-à-dire que la mafia calabraise, de toutes, enfin peut-être avec les triades chinoises, est celle qui est le plus tournée vers une implantation internationale.
Pas nouveau, mais peut-être plus récent que par exemple Cosa Nostra, la mafia sicilienne, qui elle a débarqué en Amérique du Nord plutôt dans la première moitié du XXe siècle, Clotilde Champérache.
Alors ça, c'est aussi des migrations dues à la pauvreté, parfois dues à la répression sur le territoire italien, donc avec des migrations. Parmi les personnes qui sont parties du territoire italien, il y a aussi des mafieux qui se sont recréés en lien avec la terre d'origine, des trafics. Et c'est typiquement, effectivement, la mafia américaine telle qu'on la connaît, notamment dans le cinéma.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Bertrand Monet, que la 'Ndrangheta est plus puissante que la Camorra ou encore que Casa Nostra?
Oui, alors les chiffres sont toujours sujets à caution, même si les autorités italiennes sont en Europe sans doute les seules qui sont assez structurées et courageuses pour documenter cela et partager l'information. Oui, aujourd'hui clairement c'est sans doute l'une des entreprises dont le chiffre d'affaires est le plus fort et en tout cas il est supérieur à celui de la Camorra et de la Sacra Corona Unita et de Cosa Nostra.
Comment l'expliquer, à cause de son organisation qui est moins pyramidale que Cosa Nostra?
C'est à la fois comme pour toute entreprise, en fait, c'est dû à ses marchés, c'est dû à ses produits, c'est dû aux accords, aux partenariats que la 'Ndrangheta arrive à nouer pour finalement avoir accès aux produits. Hein. La tête de gondole, le blockbuster de la 'Ndrangheta, c'est la cocaïne. La coca n'est évidemment pas cultivée en Calabre. Hein. C'est une intégration, si vous voulez, strictement commerciale qui s'opère entre les revendeurs que sont les mafias italiennes, enfin les grossistes hein, du trafic de drogue en Europe sont encore les mafias italiennes, mais elles sont quand même de plus en plus challengées, elles sont de plus en plus en compétition avec des organisations sud américaines qui viennent elles-mêmes délivrer en Europe, qui ont finalement de moins en moins besoin d'elles. Mais pour revenir à cette notion de chaîne de valeur que vous évoquiez, je pense que c'est central. Ça montre que finalement, ces mafias-là, et la 'Ndrangheta, elle est extrêmement dangereuse, oui, par son chiffre d'affaires. Si on consolidait le chiffre d'affaires des mafias italiennes, selon le parquet national antimafia, si on le consolidait dans le PIB italien, on arriverait autour de 7%. Alors c'est des chiffres qui font très peur, mais l'argent criminel, il est dangereux par son volume, mais surtout par sa capacité à pénétrer l'économie légale, parce que tout cet argent sale qui est gagné par les mafias, il est gagné avec des profits énormes. Pour rester sur le trafic de coke, un kilo de cocaïne pure acheté en Colombie par les narco-mexicains, avec lesquels j'échange dans le cadre d'un documentaire que je réalise, ils vous disent, nous on achète le kilo pur en Colombie à $1000. Il est revendu, notamment à des Italiens, aux grossistes italiens que vous évoquiez, il est revendu en Europe $63,000. Et tout ce qu'ils font, entre le moment où ils l'achètent, la seule action qu'ils ont sur le produit, finalement, c'est ce qu'ils appellent le fixing, c'est-à-dire qu'ils mettent un peu d'acétone et ils le conditionnent, ils le sèchent au micro-ondes. Et après, ce prix n'augmente finalement qu'en passant des frontières.
Il n'y a pas un passage par l'Afrique de l'Ouest ou avec des laboratoires clandestins?
Alors, les routes sont très très variables, généralement, et il faut être très clair pour revenir à ce que disait Madame Champérache sur la corruption, il n'y a pas de trafic sans corruption. Le hub, aujourd'hui, les hubs de la cocaïne, pour rester sur la cocaïne, hein, en Europe, ce sont d'abord Rotterdam, où des gens des cartels sont présents. Maintenant, c'est la deuxième génération, hein, ils vivent là. Les ports de Gênes, c'est les ports de Naples, et de plus en plus le port du Havre. L'actualité montre que malheureusement, plusieurs dockers ont été tués ces dernières années. C'est sans doute lié à ça. Vous voyez, donc, il y a une chaîne de valeur qui tient, en fait, au franchissement de différentes frontières, un risque que ces mafias acceptent de prendre et finalement le consommateur final, c'est ça qui paye.
Clotilde Champérache.
Yeah, c'est aussi que la mafia calabraise a pris du pouvoir par rapport aux cartels, notamment colombiens, et va s'approvisionner là où les Colombiens auparavant expédiaient les marchandises. Maintenant, ce sont les Calabrais largement qui ont pris la main, donc qui vont déterminer quelles vont être les routes de circulation de la drogue et qui vont adopter des stratégies aussi de calcul coût-bénéfice, de risque. C'est-à-dire que plutôt que d'expédier un produit déjà raffiné en partance d'Amérique du Sud avec un risque de contrôle un peu plus gros sur des cargaisons qui viennent de pays qu'on considère comme un risque, on peut passer effectivement par l'Afrique de l'Ouest, surtout depuis la constitution de la CEDEAO, hein, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, où on a abolition des frontières entre certains pays. Donc ça facilite là aussi la chaîne de corruption, on a moins de frontières à passer avec des enveloppes à distribuer, et on va plutôt raffiner la drogue plus proche de son lieu de consommation. En cas d'interception de la marchandise entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, on saisit des marchandises qui ne sont pas encore raffinées, donc qui ont une valeur beaucoup moins importante que si on saisissait de la drogue déjà coupée, prête à être écoulée.
Ce que l'on comprend bien, c'est que les organisations criminelles ont su tirer parti des zones de libre-échange pour faire circuler les marchandises illégales. Clotilde Champerra, je parlais de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais évidemment on pense à l'Union européenne, à l'ALENA, l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. L'ouverture des frontières, c'est un obstacle au contrôle de ces marchandises, Bertrand Monnet ?
Oui, bien entendu, c'est un obstacle, mais en même temps, il faut... Alors c'est un peu provocateur, mais malheureusement, quand on échange avec ces gens-là, ils vous le disent, ce qu'ils vendent, c'est de l'interdit. En fait, ce que l'acheteur final, pour rester sur cet exemple de la cocaïne, d'un gramme de cocaïne paye, finalement, c'est pas le produit, c'est le service que différentes organisations criminelles lui vendent. Le service, c'est quoi ? C'est l'acheminement de cette drogue qui est très simple à produire, qui coûte rien à la production jusqu'au lieu de... Et donc, en fait, leur modèle économique tient sur le franchissement des frontières, justement. Et plus ces frontières sont ouvertes, moins le profit va être important. Mais évidemment que ça favorise beaucoup d'autres trafics. Ça favorise beaucoup, plus que l'amont de leur modèle et plus que l'amont de leur économie, finalement, ça favorise beaucoup l'aval. Alors je sais que vous consacrez une émission à cela et c'est très très important. C'est l'investissement de leur argent. Enfin, c'est à la fois le blanchiment de leur argent et l'investissement
demain,
de leur argent blanchi. Ça, c'est vraiment... Ainsi que la circulation de leurs membres. Hein, ça, c'est très important. La mobilité pour eux, pour échapper au contrôle, aux forces de l'ordre, c'est central.
Sur cette mondialisation économique et financière qui a permis cette montée en puissance des mafias, Clotilde Champerrache.
Mais alors, il y a effectivement la question des frontières. Si on facilite la circulation des marchandises, ça va aussi profiter aux marchandises illégales. D'autant plus qu'avec la massification du commerce international, notamment du commerce maritime, il y a une capacité de dissimulation des marchandises illégales, frauduleuses, qui est énorme. Et à ça va s'ajouter aussi cette course à la compétition pour capter les flux de marchandises en circulation, notamment, encore une fois, le commerce maritime, c'est plus de 90% du commerce mondial qui passe par les mers, avec non pas une répartition homogène des marchandises sur l'ensemble des territoires, mais au contraire des ports qui se livrent une lutte phénoménale pour capter. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un conteneur toutes les 6 secondes qui peut être pris en charge dans des ports comme celui de Rotterdam. Et dans ces cas-là, ce qui va avec cette quête de l'efficience économique, avec tout le discours sur « il y a plein d'emplois derrière, notre PIB dépend de là », c'est qu'on renonce à la sécurité. Donc le contrôle sur les marchandises, c'est quelque chose qu'on met entre parenthèses. On estime qu'à peu près 3% des marchandises qui entrent dans les ports européens sont contrôlées actuellement. C'est rien du tout.
Et alors, ce qui prouve aussi cette internationalisation des mafias, c'est cet épisode important de l'histoire de la mafia italienne en particulier. En 1983, Tommaso Buscetta est arrêté au Brésil, justement, où il gérait pour le compte de la mafia sicilienne le trafic de drogue. Le juge Falcone, responsable du pool anti-mafia de Palerme, réussit alors à le convaincre de collaborer avec lui. Et les informations délivrées par Buscetta mèneront à un procès mémorable au cours duquel quelques 400 mafieux sont cités à comparaître. Marco Bellocchio en a fait un film, Le Traître, sorti l'an dernier. Dans l'extrait que vous allez entendre, le juge Falcone et Tommaso Buscetta se font leurs adieux à la fin du procès, avant le départ de Buscetta pour les États-Unis.
Non è contento e torna a casa. L'America non è casa mia. Casa mia è qua. Certo, sono contento, torno da mia moglie, dai miei figli. 8 figli ho fatto io. Mio padre ha fatto meglio di me. Io sono l'ultimo di 17. Questa guerra non è finita, è appena cominciata.
La guerre n'est pas finie.
Mandanti, chi tira
elle figli, vient de commencer.
Li dobbiamo arrivare senza possibilmente farsi
ceux qui tirent les ficelles sont à Rome. Le but, c'est de les coincer sans se faire descendre. Possible. Et de mourir dans son lit le plus
ma
tard possible.
Non,
la mafia n'est pas invincible. C'est un phénomène humain.
Il prima possibile.
Elle aura donc une fin.
Torno a Palermo, vado a mangiare un bel gelato a Mondello. Un viaggio.
Le juge Falcone sera assassiné 5 ans plus tard, le 23 mai 1992, dans un spectaculaire attentat. Une réaction, Clotilde Champerrache, à l'extrait que l'on vient d'entendre.
Oui, alors c'est l'optimisme de Falcon qui domine hein, sur cette idée que c'est un phénomène humain, donc il aura une fin, sauf que les humains ont des enfants, donc les phénomènes malheureusement perdurent, et pour l'instant on ne voit pas la fin des mafias, notamment les mafias italiennes.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce procès qui a eu une place assez importante, qui s'est tenue donc entre 1986-1987?
C'est la reconnaissance de l'organisation mafieuse, c'est-à-dire que là on n'a pas poursuivi un individu séparément en essayant de le coincer. C'est la forme réseau criminel qui est attaquée au cœur. Et puis, c'est l'adoption de ce qu'on a appelé la méthode Falcon, qui n'est pas non plus quelque chose qui a été créé par Falcon, mais qui a été importé par Falcon en Italie, c'est-à-dire traquer les flux financiers, chercher où est l'argent, où va l'argent, pourquoi faire. Et ça a permis effectivement d'attaquer ces organisations et de les miner. On sait que ça a eu un impact quand même, y compris symboliquement, sur ces organisations criminelles.
Cosa Nostra est tout de même sortie affaiblie de ce procès, plus largement de cette guerre anti-mafia, Bertrand Monnet.
C'est difficile à dire. Vous savez, malheureusement, je pense que toutes les informations qu'on peut avoir sur des mafias qui, notamment comme Cosa Nostra, sont vraiment extrêmement étanches. Oui, il y a des repentis, etc., mais enfin, c'est quand même pas la norme. C'est difficile à dire, d'autant plus que, encore une fois, ces mafias-là, comme les autres, sont extrêmement agiles. Elles ont cette capacité... Ces gens, moi, je suis toujours frappé en échangeant avec eux, ce sont des extrémistes économiques. Ce sont des gens qui sont prêts à tout, qui sont prêts à vendre de la drogue, qui sont prêts à vendre des oranges. Les cartels mexicains en ce moment se diversifient dans l'avocat. L'avocat, le fruit, voilà. C'est parce que ça devient beaucoup plus rentable que la marijuana. Ils se fichent totalement. Leur seule obsession, c'est qu'est-ce que ça va rapporter. Voilà. Et donc, une mafia peut être affaiblie sur un marché pendant un temps parce qu'effectivement, les pouvoirs publics arrivent à la circonscrire, etc. Mais elle a cet atout de pouvoir rebondir parce qu'elle ne se conforme évidemment pas au droit puisque ce qu'elle vend, c'est l'interdit. Et elle a cette capacité à utiliser deux actifs, la violence et la corruption. Donc, c'est quand même deux éléments qui garantissent une résilience. Donc oui, la Cosa Nostra est sans doute moins puissante qu'elle ne l'a été. Tout le monde prédisait sa disparition. Depuis quelques années, on dit que la Camorra est en perte de vitesse. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle se renouvelle. Vous voyez, elles sont même capables d'adapter leur modèle. La Camorra, qui n'a jamais été très pyramidale, qui a été toujours établie sur un modèle très très fédératif, on voit que ça l'a aidé à survivre. Aujourd'hui, elle redevient pyramidale dans ses clans. Ce sont des entreprises, encore une fois.
Et on va voir que la crise est aussi une occasion pour ces mafias de rebondir et de revenir en puissance, Clotilde Champérage.
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que suite au maxi-procès, Falcon a quand même été victime d'une campagne de décrédibilisation. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé extrêmement isolé et très amer quand même par rapport à tous les combats qu'il avait menés et puis son éviction quand même de Sicile. Quand il s'est retrouvé à Rome, c'était quelqu'un, encore une fois, de très isolé. Ce qui s'est passé après le maxi-procès, c'est que il y a eu un moment important où justement les mafias, c'est pas que l'argent, c'est aussi ce pouvoir sur le territoire. Et la population en Sicile était prête à se dresser contre les mafias, mais on a isolé Falcon. Donc il n'y a pas eu de reprise par l'État du terrain qui pourtant l'a été à reconquérir. Donc il y a eu le maxi-procès qui est fondamental, qui est très important, mais qui aurait dû donner suite à encore d'autres procès, encore plus d'attaques.
Alors il y a les mafias historiques, si je puis dire, et les mafias qui ont pris une stature internationale plus récemment. C'est le cas de la mafia nigériane.
Ils ont pris une bouteille et m'ont tapé la tête. Puis, ils ont utilisé une hache et m'ont tailladé. Ils m'ont coupé ici, à cet endroit et là, et au visage et à l'oreille, dans le but que je les rejoigne. Pour opprimer les gens, les battre, les mettre sous pression du crime. Une sorte de crime, tu vois. Voler, des choses dans ce genre. Moi je veux pas vivre ce genre de choses, donc je leur ai échappé. Si je témoigne pas, ils vont infliger ça à une autre personne. C'est pour ça que je vais témoigner, afin qu'ils ne puissent plus jamais blesser une autre personne. La mafia nigérienne semble être de plus en plus violente, surtout envers les femmes qui forcent à se prostituer. Elle est aussi violente envers ceux qui veulent sortir de ce réseau.
Voilà, la mafia nigériane qui est apparue à la fin des années 80 semble, comme on l'entendait ici, de plus en plus puissante et violente, Bertrand Monnet.
Oui, alors c'est une organisation qui est assez récente, mais qui finalement suit un modèle de développement tout à fait comparable à ses aînés, j'allais dire italiennes et chinoises, en s'infiltrant au sein des diasporas nigérianes dans différents pays. Alors d'abord en Afrique de l'Ouest, mais surtout en Europe et de plus en plus en Amérique du Sud. Ces deux grands business, ce sont alors, malheureusement, historiquement, le trafic d'êtres humains et spécifiquement le proxénétisme. Ces mafias-là, alors l'équivalent des groupes mafieux italiens pour les Nigérians, s'appellent des cult groups. En fait, il y a une matrice ésotérique au sein de ces organisations-là. Ce sont des gens qui ont des croyances vaudoues, réelles. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était sincère chez eux. Évidemment, ils instrumentalisent ça comme beaucoup de mafias instrumentalisent à des fins néfastes la religion, quelle qu'elle soit, mais c'est vraiment ce qu'ils font, notamment dans des cérémonies d'initiation qui sont copiées sur ce qu'on peut dire des cérémonies d'initiation italiennes, notamment, avec une image que l'on brûle, etc. Il y a effectivement le rite de la scarification. Il y a toujours un passage à tabac qui peut finir par la mort. Et ces cult groups sont historiquement originaires de l'ouest, du sud-ouest du Nigeria, et spécifiquement de la ville de Benin City. L'essentiel des femmes nigérianes qui sont obligées de se prostituer en Europe viennent de là. Leur business initial, c'est ça. Mais très vite, ils se sont diversifiés. Et ils ont eu cette grande intelligence, malheureusement, de s'allier et non pas d'affronter les mafias plus puissantes qui tenaient les territoires, pour revenir sur cette notion de territoire sur lesquels ils se développent. Leur allié historique en Europe, c'est la Camorra, et c'est spécifiquement les clans de la Camorra de Casa di Principe. Et quand vous allez à Casa di Principe, il y a vraiment des endroits qui sont laissés aux Nigérians. Pourquoi ? Parce que la Camorra ne veut pas faire les business sur lesquels ils sont, notamment le trafic d'héroïne, etc. Ça, c'est eux. Ils sont présents jusqu'au Brésil. Ils tiennent des business entiers à São Paulo, en accord avec le PCC, Primeiro Comando da Capital. Ils sont présents aux US. Voilà, c'est vraiment une vraie multinationale.
Et donc, sur leur organisation, mais aussi éventuellement sur un certain nombre de rites, on observe une certaine imitation, Clotilde Champerrage, des mafias italiennes, oui, du côté des mafias nigériennes.
Alors d'ailleurs, moi, j'établirai un distinguo. Je parlerai pas de mafia nigériane parce que pour moi la mafia c'est quand même un stade ultime d'organisation criminelle, et heureusement que toutes les organisations criminelles, même les plus structurées, ne sont pas des mafias, parce qu'on est quand même face à un phénomène criminel qu'on n'a jamais réussi à atteindre, à combattre jusqu'au bout. Je distinguerai l'organisation criminelle telle qu'elle peut être définie dans le code pénal italien, avec des caractéristiques bien établies, une historicité, une présence dans le légal et l'illégal dès le début, une capacité d'être présent sur les activités légales, les activités illégales, et de conditionner la politique. Et puis, à côté de ça, il y a la méthode mafieuse. Ça, la méthode mafieuse, elle est copiée. Et quand on dit que les Nigérians ne se confondent pas directement mafia italienne, oui, ils apprennent. Ils sont dans un processus d'apprentissage avec des phénomènes de délégation. La mafia napolitaine, la Camorra, a beaucoup délégué la prostitution, la drogue, parce que comme ça permet aussi à la mafia napolitaine de ne pas se salir visiblement les mains. Et d'instrumentaliser aussi une forme de racisme, on va dire, c'est pas nous, c'est les Nigérians qui gèrent ces business sales. Bon, on sait très bien que pour opérer sur ces territoires-là, il faut quand même l'accord de la Camorra. Et donc, il y a cet enchevêtrement des organisations criminelles avec potentiellement montée en puissance quand même des mafias nigérianes qui, effectivement, vont reprendre les rituels, vont se créer aussi une mythologie qui va les acheminer potentiellement vers ce statut de mafia.
Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de sourdine, deux sous de combine, et t'avais ton rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, T'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça indispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia elle aime pas ça.
Mafia de Léo Ferré sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Clotilde Champérache et Bertrand Monet sont toujours avec nous pour parler de l'économie des organisations criminelles. Alors on l'a dit, ce qui caractérise les mafias, c'est qu'elles ont aussi un pied dans l'économie légale. Et ce qu'il faut rappeler, Clotilde Champérache, c'est qu'à l'origine, la mafia avait un rôle de médiateur dans l'économie et de protecteur.
Oui, alors là aussi, il y a beaucoup d'instrumentalisation, hein, mais on a des chefs mafieux qui disent « Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal, je suis le juge de paix. » C'est-à-dire que les gens viennent vers moi quand ils ont un différend parce que les carabiniers n'ont rien vu, parce que la justice est lente. Donc moi, finalement, j'ai ce rôle-là, mais je m'en passerai bien.
Alors qu'en réalité, il y a évidemment une contrepartie à ce rôle.
Oui, en général, lorsque vous demandez un service à la mafia, vous entrez dans ce réseau de faveurs réciproques, et puis un jour ou l'autre, on va vous demander un petit service qui peut être laissez-nous vos locaux un moment, aller ailleurs et puis nous, on a besoin de ce local-là, ou alors recruter telle personne parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un emploi légal. Enfin, on rentre dans un réseau de connivence avec les mafieux, et c'est ça aussi qui est important à comprendre pour l'appellation de mafia, c'est que c'est dès le début que ces mafieux sont présents. Donc, ils règlent des différends, ce qui fait qu'ils collectent énormément d'informations sur l'économie légale. On pense aussi que l'émergence en Sicile, c'est en lien avec des propriétaires terriens qui étaient absents, qui ont délégué la garde des champs à des individus pour qu'ils soient crédibles. Il fallait qu'ils soient un peu violents, donc des gens un peu à la marge, mais qui avaient cet emploi tout à fait légal. Et que en étant gardiens des champs, ils avaient des informations sur la capacité de production de tel champ, le cours des agrumes, etc. Donc ils vont intermédier aussi les échanges. Et c'est ce que un auteur comme Diego Gambetta montre, il dit, on est quand même sur des territoires où la confiance est très faible. Que fait le mafieux? C'est, il va dire au vendeur et à l'acheteur, bon écoutez, réalisez votre transaction, moi je suis là, je suis le garant. Évidemment, il se fait payer une petite commission et la transaction a lieu grâce à lui. Mais en même temps, il fait tout en œuvre pour que la transaction ne puisse plus se répéter après sans lui. Donc il ne crée pas de la confiance, il intermédie.
Et c'est dans ce contexte que Bertrand Monet, ces mafias réussissent à prendre le contrôle d'entreprises légales et à en faire des entreprises légales mafieuses dans des secteurs de prédilection qui sont par exemple les déchets ou encore le BTP.
Ouais. Alors, toute cette définition est vraiment centrale. Et je pense qu'elle est quand même assez liée au modèle italien. Hein. Là, on parle beaucoup des mafias italiennes, qui a des variantes hein, dans d'autres pays. Moi, je pense que quand on parle de contact avec l'économie légale, il vient d'une nécessité absolue, qui vient d'un problème en fait, qui fait que quand on vend de l'interdit, on est payé en cash. Le gramme de shit ne s'achète pas en carte bleue, ni le fixe de cocaïne, etc. Donc, leur problème, c'est pas tellement de gagner de l'argent à ces organisations-là, c'est la forme dans laquelle elles le gagnent. Elles le gagnent en cash, dans des monnaies très différentes, certaines sont pas convertibles, etc. Donc, très vite, elles ont ce problème du blanchiment qui nécessite un premier contact, mais immédiat, dès le premier dollar gagné. Alors, le premier dollar, non, mais dès la première dizaine de milliards de dollars, qu'est-ce qu'on fait avec 10 000 dollars en cash? Voilà. Donc, voilà. Donc, d'emblée, il y a ce contact. Dans l'ADN du mafieux, il y a cette nécessité de pénétrer l'économie légale. Une organisation criminelle qui ne pénètre pas l'économie légale, elle va étouffer, elle va s'asphyxier. C'est un besoin absolu. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et au-delà du blanchiment, une fois qu'ils ont lavé leur argent, l'investissement dans l'économie légale se fait toujours de façon très normée. Avec des priorités. Et la première des priorités, c'est d'abord, c'est pour ça qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres. Et c'est ce qui explique qu'on voit des secteurs qui sont historiquement pénétrés par le crime organisé. Les mafias n'ont pas de passion pour les boîtes de nuit ou autres, non. La priorité, la priorité 1 d'une organisation criminelle quand elle investit son argent, c'est de l'investir dans ce qui va lui permettre à blanchir, justement. Donc tous les business qui sont légitimes à avoir un usage massif et intensif de cash, ils sont dans le cœur de la cible. Alors évidemment, c'est les nightclubs, c'est les restaurants, on parle des kebabs, voilà, les blanchisseries, le mot blanchiment même, hein, voilà. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est des chaînes de supermarchés, c'est tous ces business qui sont légitimes à utiliser du cash. Au Brésil, c'est un vrai sujet, hein. Par exemple, au Mexique aussi. Mais ensuite, il y a bien d'autres secteurs qui sont intéressants pour les organisations criminelles. Pourquoi ? Parce qu'ils vont leur permettre de valoriser le contrôle territorial que vous évoquiez pour faire d'autres choses, notamment l'extorsion. Ce que veulent ces mafias, c'est pénétrer certains secteurs économiques parfaitement légaux, le traitement des déchets, la construction, l'emballage. Pourquoi ? Parce que dans ces secteurs-là, il y a des PME, c'est pas des grosses boîtes, ils vont pas prendre le contrôle d'une multinationale, non. C'est des PME qui vont leur permettre de faire quoi ? De devenir des fournisseurs de boîtes légales. Qu'elles vont faire quoi ? Qu'elles vont extorquer. Et pour extorquer une entreprise sans se faire prendre par l'auditeur, il faut tout simplement être un de ses fournisseurs. Et c'est comme ça qu'elles vont se faire payer des fausses factures, etc. Ensuite, elles vont investir dans des secteurs qui leur permettent de faire de la fraude. C'est toute la fraude alimentaire qu'on voit en Italie, de la contrefaçon, etc.
Alors, il y a les boîtes de nuit, il y a les déchets, mais ce qui inquiète davantage encore les Calabrais, c'est l'emprise croissante de la 'Ndrangheta sur le secteur de la santé.
Ici, en Calabre, l'argent arrive et les entreprises naissent, vivent et meurent le temps de remplir la demande de subventions publiques. Ils s'en mettent plein les poches, on ne crée pas d'emplois. On meurt de ce pacte entre la santé et la mafia. Ils font péricliter la santé publique pour alimenter la santé privée. Quand vous devez aller à l'hôpital faire un examen, on vous dit il y a plus d'un mois, un mois et demi d'attente. Et pour une attaque, c'est 3 mois. Parce qu'ils ne pensent pas que dans 3 mois, ce sera peut-être trop tard. Mais quand on vous annonce 3 mois d'attente, on vous dit aussi, si vous voulez, je connais un laboratoire privé où on vous le fera dans les 15 jours. Alors vous allez dans un laboratoire, une clinique, qui n'a de privé que le nom, car elle est entièrement financée par l'argent public.
Francesco Forgione, le président de la commission parlementaire anti-mafia, extrait d'un documentaire réalisé par Arte en 2008. Alors que vous inspire ces propos, Clotilde Champérache, et est-ce qu'on peut considérer effectivement que la mafia cherche à diversifier ses activités pour compenser aussi les risques de la sphère illégale ?
La mafia, là aussi, dès le départ, c'est une organisation criminelle polyactivité. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais spécialisée sur une seule branche. Et c'est une grosse différence, par exemple, avec les cartels de la drogue. Donc la mafia ne dépend pas d'un marché en particulier. Si ça rapporte de l'argent, c'est très bien, la drogue. Mais c'est une opportunité récente pour les mafias italiennes, mais même les japonaises et les chinoises existaient avant cette massification du marché de la drogue. Donc elles sont présentes sur plein de marchés.
Mais la santé, c'est relativement nouveau.
Oui, c'est récent, mais c'est une stratégie d'expansion. Encore une fois, il y a de plus en plus de secteurs. La distribution dans l'agroalimentaire, c'est devenu aussi quelque chose de largement infiltré. C'est pour la santé quelque chose dont on s'est rendu compte parce que depuis 1991, en Italie, on peut dissoudre les entités publiques qui ont fait l'objet d'une infiltration mafieuse avérée. Et au départ, ça a touché beaucoup des mairies. Et puis, il y a quelques entités sanitaires locales, comme on appelle ça en Italie, qui ont aussi été dissoutes parce qu'on s'est aperçu que dans le conseil d'administration, il y avait quand même une forte présence criminelle. Donc, c'est un nouveau business. C'est un business qui est lié au territoire. On vit, on meurt sur un territoire, on est soigné sur un territoire. Et effectivement, les mafias, ce sont des criminalités du quotidien. Et si vous êtes quelqu'un d'honnête qui ne veut pas avoir de rapport avec la criminalité sur un territoire de mafia, vous ne pouvez pas y échapper. Vous serez confronté à un moment à un mafieux. Et ce que font les mafieux aussi toujours, c'est créer ce que j'appelle de la rareté artificielle, c'est-à-dire une façon non violente, en tout cas pas en termes d'homicide, de menace, d'attentat, c'est une façon de conditionner les autres. Et là, on conditionne, oui, il y a une attente dingue dans les services publics. Donc, tournez-vous vers le privé, et puis le privé, il est gangréné par ces organisations criminelles.
On retrouve les mêmes stratégies d'infiltration dans l'économie légale du côté des cartels d'Amérique latine, Bertrand Monnet.
Oui. Oui, mais pour rester 2 minutes sur la santé, il y a aussi dans ces priorités de l'argent, une fois qu'il est blanchi, sans être obsédé par ça, mais c'est quand même pour ça qu'ils font tout ça, hein, c'est hyper dangereux, hein, ce business-là, ils ont beaucoup de morts, etc. Donc ce qu'ils veulent, c'est profiter de cet argent. Une fois qu'ils l'investissent, il y a une priorité, ça rejoint la santé, c'est tout ce qui est marché public. Marché public et délégation de services publics, parce que ça leur permet de valoriser le contrôle qu'ils ont sur des élus et sur l'échelon administratif. S'ils ne contrôlent pas ces gens-là, premièrement, ils sont arrêtés, mais en même temps, dans leurs mains, les autorités publiques, elles ont des milliards d'euros qui sont les marchés publics et les délégations de services publics. Alors ça dépend des pays, mais dans certains pays, le secteur privé de la santé est régi par des délégations de services publics. Donc ça leur permet de faire ça. Deuxièmement, même quand c'est pas le cas, le secteur de la santé, c'est prioritaire pour eux parce que ça leur permet de fourguer, il n'y a pas d'autre mot, un produit qui est très très rémunérateur pour eux, qui est la contrefaçon. Notamment le faux médicament. Ou le médicament qui n'est pas en soi faux, mais dont la date de péremption est passée, dont la conservation n'a pas été proprement exécutée, etc. Et quand ils possèdent des cliniques, quand ils ont accès à des cliniques privées, à des centrales d'achat de ces cliniques privées, etc., évidemment, ils peuvent vendre tous ces produits-là. Ça révèle tout le cynisme, hein, évidemment, de ces organisations-là. Pour revenir sur l'Amérique du Sud, oui, bien sûr. Alors certes, les cartels sont ab initio, c'est spécialisés dans la drogue, mais enfin, ils se sont diversifiés dans bien d'autres activités depuis très longtemps. Et on peut pas parler de la drogue, mais des drogues. Hein. Ils ont inventé des drogues qui sont très différentes de la cocaïne, le cristal, la méthamphétamine, le fentanyl, etc. Donc, ils ont cette capacité à diversifier, mais ils font exactement ce qu'on observe en Europe sur des mafias, entre guillemets, traditionnelles. C'est la pénétration, la mise en coupe réglée de l'économie légale à telle enseigne qu'à in fine, l'État, et là, je parle de l'État mexicain, mais devient impuissant. L'an dernier, Ovidio Guzman, le fils d'El Chapo Guzman, l'ancien patron du cartel de Sinaloa, a été arrêté, mais par inadvertance, par l'armée, après quelques heures de combat. Le président mexicain, c'est pas le gouverneur de l'État du Sinaloa, c'est le président du Mexique, s'est exprimé publiquement après avoir demandé à la police et à l'armée mexicaine de libérer le chef du boss du cartel de Sinaloa en disant « On ne peut pas combattre le feu avec le feu, c'est un aveu d'impuissance qui résulte de quoi ? De cette pénétration de l'argent du crime dans l'État mexicain. »
Autre exemple, c'est cet ancien ministre de la Défense mexicain, toujours Salvador Cienfuegos, qui a été arrêté il y a quelques jours aux États-Unis pour trafic de drogue. Alors comment est-ce que ces organisations réussissent à rallier des personnalités aussi haut placées, Bertrand Maudet ?
L'argent. La rentabilité du trafic de drogue pour un cartel, alors mexicain, pour les autres, je ne sais pas. Évalué le mois dernier, ça varie, hein, évidemment, ça peut être haussier, baissier, c'est plus de 8000%. Quand vous gagnez un argent à plus de 8000%, je pense pas qu'il y ait une comparaison possible avec une activité économique légale. Cet argent-là, il est gagné en masse, certes, mais encore une fois, ça confère à cet argent une intensité, une puissance de pénétration extrême. Donc premièrement, ils ont toujours deux approches. Ils essaient d'une part, mais ça c'est superficiel, de conditionner favorablement leur cible, la corruption. Le ministre dont vous parlez est suspecté d'avoir accepté des pots de vin, etc. Mais une corruption bien plus structurelle, qui est une corruption économique. Les fondements même de l'économie aujourd'hui mexicaine sont pénétrés par cet argent, parce qu'encore une fois blanchi, cet argent atteint un niveau tel et un volume tel qu'il devient malheureusement indispensable à certains secteurs économiques.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la corruption en Italie, Clotilde Champerrage, près de 30 ans après l'opération Manipulite Mainsal en français?
Le problème est toujours actuel, qu'il est documenté notamment pour les mandats locaux, qu'on n'a pas encore atteint les niveaux supérieurs, même si il y a quand même des soupçons qui circulent sur des enrichissements étranges. La corruption, quand on est sur des territoires à ce point-là gangrénés par le crime organisé, c'est plus un rapport de il y avait tellement d'argent que je me suis laissé tenter en tant qu'agent public. Il y a un bond qualitatif dans le rapport corruptif et qui est de la corruption conditionnement avec des rapports d'intéressement joints qui font qu'on ne sait plus vraiment qui est demandeur des deux. C'est typiquement ce qu'en Italie on appelle le vote d'échange, c'est-à-dire que le mafieux, mais on a la même chose au Japon, hein, le mafieux dit « moi je représente tant de voix aux élections et je vous vends ce paquet de voix, quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous me donnez en échange ?» Et là, ça devient circulaire, c'est-à-dire que l'élu, il est content d'être élu grâce à ses voix, il va pas rejeter ça, et il va accorder les marchés publics. Donc là, la manne financière vient entretenir la mafia redistribue une partie de cet argent-là dans la population, donc elle peut conquérir des voix pour l'élection suivante, etc.
Et aujourd'hui, la crise économique et sanitaire que l'on traverse semble profiter aux mafias, notamment en Italie. Écoutez le procureur national antimafia Federico Cafiero des Rats, puis un entrepreneur d'une entreprise de construction qui a cofondé une association de lutte contre le racket.
J'ai demandé un prêt de base de 25 000 euros dans le cadre du décret de relance du gouvernement. in attesa di avere questo finanziamento.
J'ai fait ma demande le 11 avril et j'attends toujours. Le crime organisé, lui, est prêt à faire une offre qui n'est autre que de l'usure. Lorsque l'argent ne peut pas être restitué, la Camorra en profite. Grâce à cet argent, elle peut acquérir la gestion de l'entreprise. À partir de là, elle utilisera cette entreprise pour blanchir son propre argent illicite. Il y a encore plus de colère, encore plus de tension. La pandémie a fait sombrer ceux qui étaient déjà en crise. En cette période où des extorqueurs apparaissent sur les chantiers pour demander l'argent de la protection, de nombreux collègues disent non.
Clotilde Champérage, comment la Camorra napolitaine tente-t-elle de tirer parti de la crise actuelle ?
Pas que la Camorra, hein. toutes les mafias. Là, elles vont. Alors, il y a les business qui se développent. Hein. Le sanitaire, évidemment, a connu une expansion aussi. Les médicaments, les masques qui ne sont pas du tout aux normes, mais qui circulent quand même. Il y a aussi toutes les distributions d'aide alimentaire à la population. Hein. Là, on est dans le contrôle du territoire. On l'a eu avec El Chapo qui avait envoyé sa sœur distribuer. Et puis, dans certains quartiers particulièrement déshérités de Palerme, on a eu aussi ces distributions assurées par des gens dont on sait qu'ils sont affiliés à des clans mafieux. Et puis, là où on a vu des indicateurs de criminalité baisser pendant le confinement et puis le déconfinement, il y a un indicateur qui, par contre, a commencé à clignoter, c'est celui de l'usure, effectivement. Hein, on est à peu près à plus 10% de dénonciation, ce qui veut dire qu'on est bien au-delà en termes de ce qui est réel. Et vous avez effectivement des individus mafieux avec du liquide qui s'approchent d'entreprises en difficulté et qui proposent leurs services là où les banques ne prêtent pas d'argent.
C'est effectivement le journaliste Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, qui a tiré la sonnette d'alarme en mars dans le quotidien italien La Repubblica. Bertrand Monez, sur cette façon de profiter de la crise grâce à ce système bancaire parallèle, finalement, ces liquidités qui permettent à ces réseaux criminels d'octroyer des crédits à des entreprises en difficulté.
Oui, malheureusement, c'est classique. Hein, chaque crise est un accélérateur de croissance pour le crime organisé. C'était déjà vrai de la crise de 2008. Dès qu'il y a un manque de liquidité structurelle de l'économie illégale, forcément, les entreprises cherchent à financer notamment leurs dettes et donc elles sont preneuses de cash. Le vrai sujet, et là il y a quand même une question à se poser, hein, c'est la responsabilité de système public. Comment se fait-il qu'on puisse injecter du cash dans la comptabilité d'une entreprise ? Encore une fois, c'est possible pour certains secteurs très très particuliers qui sont légitimes à gagner de l'argent en cash, mais encore une fois, un inventaire ça peut se faire, ça peut se contrôler. Le vrai sujet surtout, et les camoristes en tout cas du clan Di Lauro, ce qu'ils font depuis très longtemps, avant que Saviano ne l'observe d'ailleurs, hein, il l'a très bien documenté, il vise certains secteurs. Ils vont injecter du cash, mais dans des entreprises pour lesquelles il y a une tolérance coupable de l'État, ce qu'on appelle l'économie grise, à la fraude fiscale. C'est-à-dire que ils vont viser des boîtes pour lesquelles on sait, l'État sait, de toute façon le volume est tel, qu'elles vont payer une partie de leur masse salariale, une partie de leurs achats de commodities, de carburant, etc. Elles vont les payer en cash, et donc finalement c'est pas normal, mais c'est toléré. Elles vont s'engouffrer dans toutes ces failles-là. Le drame, c'est au-delà de pour ces entrepreneurs. Je rencontrais des entrepreneurs dont l'entreprise a fait l'objet de cette prise de contrôle. C'est dramatique. Personnellement, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'en gros, c'est plus 40%. Si dans 6 mois, vous n'avez pas remboursé, ce sont des atteintes physiques, etc. Ils font en sorte que vous ne puissiez jamais rembourser parce qu'ils vont faire augmenter vos prix et baisser vos capacités d'accès au marché, etc. C'est diabolique. Le vrai sujet, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le contrôle de ces boîtes, les mafieux ne les gèrent pas en bon père de famille. Ils ne visent pas n'importe lesquelles. Ils ne financent pas n'importe quelles entreprises. Ils vont financer des entreprises qui vont leur permettre de c'est le double effet mafieux, qui vont leur permettre de faire quoi ? De faire de la fraude, notamment de la fraude alimentaire. Tout le secteur du lait, des produits laitiers dans le sud de l'Italie est pénétré par ça depuis des dizaines d'années. C'est pour ça qu'on a du faux beurre, c'est pour ça qu'on a du faux lait. Toute la filière de produits conditionnés, de la tomate, des légumes, enfin tous les Italiens du sud de l'Italie peuvent vous en parler, les centrales d'achat, c'est l'enfer pour les grandes surfaces, hein, parce que ce sont des vraies entreprises dans les produits desquels on trouve du faux, parce qu'à la gouvernance de ces boîtes, du fait de ce processus, il y a des mafieux alors ils ne prennent surtout pas le management d'entreprise, hein, ils savent pas faire, eux ce qu'ils savent faire c'est des activités strictement criminelles, ils laissent le management en place, mais évidemment ils lui imposent de faire de la fraude et de la contrefaçon, ça c'est terrible. Et quand on parle de contrefaçon, pour rester sur la crise sanitaire, notamment des clans de la Camorra en lien avec des triades chinoises avec lesquelles ils travaillent depuis très longtemps sur la contrefaçon de smartphones, aujourd'hui leur agenda c'est le vaccin. Clairement, ils se sont déjà mis en ligne pour, non pas produire, mais comment distribuer des vaccins de piètre qualité, les packaging, etc. Ils ont déjà anticipé ça.
Clotilde Champérache, on disait tout à l'heure que les mafias essayaient de redorer leur image en distribuant par exemple des colis aux familles pauvres. On l'a vu du côté de Palerme, on l'a vu du côté de Mexico. Or, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a été élu sur la promesse de mettre fin à la guerre du gouvernement contre les cartels et de s'attaquer aux causes de la violence, dont la pauvreté. Est-ce que ça vous semble une bonne stratégie ?
C'est une bonne stratégie, mais il y a aussi tous les enjeux de confrontation, c'est-à-dire que ces organisations criminelles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont non pas être un anti-État, mais être des parasites de l'État, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas prendre la place de l'État. Elles savent très bien qu'elles ne sont pas compétentes et que ce n'est pas leur rôle, mais ce qu'elles vont faire, c'est mettre en avant à quel point l'État n'est pas compétent ou est trop lent. C'est typiquement ce qui se passe avec la crise sanitaire actuelle, c'est-à-dire qu'on débat pour qu'il y ait des aides, des plans de relance, etc. Mais concrètement, les petites entreprises qui ont un problème de trésorerie ne voient pas l'argent arriver. Mais parce que l'État, lui, va essayer de contrôler où va l'argent. Donc ça va forcément être extrêmement lent, alors que la trésorerie, c'est tout de suite, c'est maintenant, et qu'à côté, le mafieux, lui, il n'a pas de vérification à faire, il est là avec l'argent.
Peut-être que ce n'est pas à l'échelle des États qu'il faut agir, mais à l'échelle locale, d'un côté avec les associations, et à l'échelle internationale, puisqu'on a affaire à des organisations mondiales, Bertrand Monnet.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi des endroits où l'État n'est pas présent, tout simplement. Et donc, les mafias occupent une place qui n'a jamais été, de fait, occupée par l'État. Je pense que quand on parle de territoire, et elles l'ont très, très bien compris. Il y a un autre territoire aujourd'hui qu'elles sont en train de coloniser, c'est le territoire cybernétique. Il y a une vraie aujourd'hui, non pas collusion, c'est faux, mais une véritable approche et un véritable rapprochement entre des organisations strictement mafieuses, un peu à l'ancienne, y compris italiennes, mais pas seulement, et des communautés de hackers qu'elles recrutent, qu'elles forment, qu'elles payent, parce que ces hackers, et c'est toute l'actualité de la cyber, c'est pas du tout notre sujet aujourd'hui, mais tous ces gens-là aujourd'hui commencent à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La cybercriminalité, on sait pas, c'est entre 800 et 5000 milliards de dollars par an, ça commence à faire beaucoup. Et ces gens-là, à un moment, il faut quand même qu'ils blanchissent l'argent. Alors certes, ils sont payés en crypto-monnaie, mais pour bénéficier de cet argent-là, il faut qu'ils le blanchissent. Et ceux qui savent blanchir, c'est les mafias, c'est pas eux. Donc il y a un vrai contact aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux pour de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs. Clotilde Champérache, Quand la mafia se légalise et La face cachée de l'économie, tous deux parus aux presses universitaires de France. Bertrand Monnet, Mafia et terrorisme, les nouveaux pirates de l'entreprise, publié aux éditions du CNRS. Un grand merci. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Une semaine depuis que la Banque Centrale Européenne a lancé des consultations sur un éventuel euro numérique, une monnaie rempart face aux crypto-monnaies, mais aussi une arme économique.
Et oui, l'essentiel, disait Hamlet, c'est d'être prêt, et la Banque Centrale Européenne ne cache plus son inquiétude face à la multiplication de monnaies numériques à vocation mondiale, comme le Bitcoin ou le Libra de Facebook, et au cortège de menaces qu'elles entraînent au sein des économies développées. Vous en parliez justement, blanchiment, financement du terrorisme, déstabilisation monétaire. Et puis être prêt, c'est aussi prendre les devants sur une tendance lourde, le déclin des paiements en liquide, fortement accéléré par la crise sanitaire. L'euro numérique se veut donc une réplique et une imitation sûre. Aux épargnants et aux entreprises, la Banque Centrale Européenne promet un moyen de paiement rapide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui évite les transactions interbancaires et leurs tarifs. Mais pour elle, comme d'autres banques centrales, l'enjeu est d'abord de fortifier leur souveraineté monétaire.
Plusieurs États ont d'ailleurs déjà commencé à expérimenter leur propre crypto-monnaie.
Oui, le G20 est préoccupé. Benoît Cœuré, qui dirige depuis mai le pôle d'innovation de la Banque des règlements internationaux sur le sujet, parlait du projet de Libra de Facebook comme d'un signal d'alarme. Et du côté des États, c'est vraiment le branle-bas de combat. Selon la BRI, justement, 80% des banques centrales préparent des tests de monnaie numérique, dont plusieurs ont été lancés cette année par la Banque de France, par la Banque centrale de Chine avec le yuan numérique dans quatre grandes villes, puis par la Banque de Suède, qui a lancé lancé en début d'année Ligue Couronne.
Cependant, Xavier, la BCE reste prudente quant à sa stratégie.
Oui, moyen de paiement de détail ou monnaie virtuelle de gros pour les transactions internationales. La Banque Centrale n'a pas encore choisi. Elle se donne le temps de consulter puis d'expérimenter pendant 6 mois et n'entend pas mettre en place de porte-monnaie numérique, comme elle dit, pour les particuliers avant 2023. Mais on sait que pour empêcher la spéculation, elle fixerait son cours à parité avec l'euro physique, une sorte d'anti-Bitcoin, en somme, Bitcoin connu pour sa volatilité justement. Pour le président du groupe de travail Fabio Panetta, l'euro numérique pourrait aussi renforcer le rôle international de l'euro, même si c'est d'abord la BCE qui se renforcerait en obtenant un moyen d'intervention directe sur l'épargne privée pour, dit-il encore, stimuler directement la consommation des ménages ou les investissements des entreprises.
Cependant, l'euro numérique pourrait aussi présenter un risque, celui de retomber sur les pieds des banques européennes.
Et oui, c'est ce qui arrive quand on tire une flèche, dit Hamlet, et le cahier des charges des banquiers centraux est compliqué, explique Joël Toledano dans son dernier livre sur les GAFA. Il faut, dit-elle, à la fois protéger le système bancaire historique et ses emplois, répondre aux enjeux de souveraineté et favoriser l'innovation et la productivité, avec parmi les principaux problèmes, et c'est l'enjeu des consultations, comment éviter de léser les banques qui profitent habituellement de frais de transaction et qui, dans le cas d'une panique bancaire, pourraient subir aussi une fuite de capitaux vers les comptes numériques. Le rapport réfléchit donc à limiter l'attractivité des comptes en euros numériques. Mais Joël Toledano prédit cependant un conflit d'intérêts entre monnaie numérique pour les banques de détail et souveraineté monétaire européenne et protection du secteur bancaire.
Et du côté des investisseurs, le risque est d'abord celui d'une monnaie inefficace.
Oui, l'euro numérique reprend une partie du principe des stable coins, des crypto-monnaies stables car indexées sur une monnaie physique, sur lesquelles misent les investisseurs depuis quelques années. Mais certains doutent de la capacité européenne à rivaliser avec les monnaies numériques concurrentes. Ainsi, un cabinet spécialisé craint que le projet tardif ne soit d'emblée affaibli par un encadrement législatif jugé frileux. Sa dirigeante Claire Balva énumère ainsi les risques. D'une part, tous les œufs dans le même panier avec un euro numérique unique plutôt que plusieurs stablecoins en euros. Ensuite, réinventer la roue en créant une monnaie trop fermée face à des réseaux publics qui fonctionnent bien. Ou finalement, rouler avec le pneu crevé d'une laborieuse coordination entre les banques centrales. Bref, tout ce qui pourrait conduire droit dans le mur. L'enjeu est économique mais également politique, car des monnaies numériques indexées sur le dollar, même en Europe, prévient-elle, seraient de fait soumises à la politique monétaire européenne. Le leader européen de l'investissement numérique européen se veut lui plus optimiste. Sa directrice France Giulia Mazzolini envisage même inévitable que l'Europe adopte un système entièrement sans numéraire, mais tout sera question, dit-elle, de régulation et de stratégie. On le voit, l'essentiel c'est d'être prêt, mais alors sera-ce la formule du kairos ou de la procrastination.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous, l'écho qui m'a aidé à préparer cette émission, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation, Félix Levaché, à la technique aujourd'hui, Swad Boukorsa. Demain, mon papa, moi, est un banquier. On parlera du blanchiment d'argent par les banques. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.